It's very difficult.
Show me the
very difficult.
So what is written? Change the world now.
Save our souls. We're in danger.
Merci, Viviane.
C'était bien d'avoir sa voix. Et ça, c'est vraiment la dernière fois où j'ai vu Viviane. C'est à Londres. Et elle est venue avec Andreas, très élégante, magnifique, dans cette robe en tricot, avec une seule épaule recouverte, très touchante.
Elle est toujours dans mon cœur, tu sais. Et aujourd'hui, je porte un costume à Vivienne Westwood. Je vais le porter avec une kilte en tartan, un chèque rosé bleu, avec un veste cuir. C'est un peu clash pour un mardi, mais ça va aller, j'espère.
Vivienne Westwood, 1941-2022, Lady Subversion, rebelle de la mode. Un documentaire d'Emmanuel Paul, réalisé par Véronique Samouilov.
Qu'est-ce que vous portiez pour les funérailles de Vivienne Westwood?
Je portais un pantalon à bondage, tu sais, avec le bretelle entre les joues, mon vieux t-shirt que j'ai acheté avec tout mon argent quand j'étais étudiant. C'est un peu bizarre parce que maintenant j'ai 66 ans. Et pour être punk à 66, mais pourquoi pas?
J'avais mis un imperméable en camouflage. J'avais un pantalon en tartan et une paire de boots. C'était merveilleux parce que il y avait comme une immense rétrospective de Viviane. Et il y avait une très belle chanson de Nick Cave, que je peux vous faire écouter, chantée par lui.
Il est plutôt rare de se dire que l'on aimerait rendre hommage à quelqu'un parce que l'on a adoré les images de son enterrement. Vivienne Westwood, créatrice de mode britannique, est décédée à Londres le 29 décembre 2022. Elle avait 81 ans. À la cérémonie organisée quelques mois après sa mort et qui rassemblait ses amis venus du monde entier, il y avait de l'anticonformisme dans l'air et beaucoup de joie de vivre. La joie, c'est pouvoir porter des vêtements pensés comme un pied de nez à la rigidité du monde, avec faux cul, voilettes, déchirures et talons insolents. La joie, c'est savoir que ces vêtements, méticuleusement réfléchis, ont été taillés dans des grands pans d'histoire. L'unique raison de mon engagement dans la mode est de détruire le mot conformisme, aimer rappeler celle qui sera anoblie par la reine Elisabeth II, après avoir elle-même endossé à jamais la piquante couronne de reine du punk. C'est dans la boutique de Chelsea, au 430 King's Road, qu'avec son compagnon, Malcolm McLaren, futur manager des Sex Pistols, elle s'essaie, dès le début des années 70, à des expérimentations vestimentaires. Elle a quitté son métier d'institutrice, elle a quitté son premier mari, Derek Westwood, mais elle en a conservé le patronyme, un nom qu'elle rendra plus que célèbre.
Voilà, donc Nick Cave
super.
A interprété cette chanson, et c'était vraiment tellement elle. Tellement
le créateur français Jean-Charles de Castelbajac était l'ami du couple Malcolm McLaren Vivienne Westwood.
Arrêté.
50 belles années d'amitié.
Ces deux amis qui m'ont fait réaliser la notion de vêtement manifeste, en fait. Hein. C'est-à-dire que le vêtement n'est pas là pour seulement une fonction, protéger ou célébrer ou sophistiquer la personne, mais il est porteur d'un brûlot, d'un manifeste et d'une déclaration. Malcolm McLaren, c'est lui qui ouvre mes yeux même sur mon travail, puisque moi j'avais eu la chance de rencontrer Raoul Hausmann, ex-dadaïste à Limoges, en 66, et c'est à partir de là que je fais des vêtements en déchets et en serpillière. Et Malcolm, il y voit quelque chose de très politique, alors que pour moi, ça reste un détournement et un recyclage.
Le punk, enfin pour moi en tout cas, le punk tel qu'on le connaît aujourd'hui naît vraiment de cette rencontre entre une musique discordante et puis une tenue qui est tout aussi discordante et dissonante.
Tim Aaron.
Et pour ça, alors Malcolm McLaren et Vivienne Westwood n'ont pas eux seuls en fait créé cette tenue punk, mais sont vraiment au centre de cette, sont vraiment au cœur de cette explosion vestimentaire. Hummingbird should be your name.
Je m'appelle Vivienne Isabelle Sawyer. Je suis née le 8 avril 1941. Ma mère, Dora, nous lisait les contes de Grimm. À Noël, j'allais avec mon père, Gordon, dans la forêt de Sherwood, chercher des baies rouges. À 14 ans, je ne vivais que pour danser et je me fabriquais des robes de soirée moulantes. À 17 ans, je suis entrée dans une école d'art pour y étudier la mode. Mais à la fin du premier trimestre, je suis partie et je suis devenue institutrice. J'ai épousé Derek Westwood, un apprenti outilleur, et notre fils, Ben, est né en 1963. C'est un ami de mon frère qui a changé ma vie, Malcolm McLaren. Malcolm était cosmopolite, talentueux, anti-establishment. C'était un artiste rebelle qui débordait d'idées. Notre fils, Ferdinand, est né en 1967.
Malcolm McLaren et Vivienne Westwood commencent à vendre des produits, des habits qui sont très fortement inspirés des sous-cultures BDSM, du monde du fétichisme, de l'underground queer également. Donc il y a un club lesbien très connu à l'époque qui s'appelle Louise, où beaucoup de jeunes vont danser parce que la musique est plus fun, la fête y est plus folle. Et quand ces jeunes s'aperçoivent que Westwood et McLaren vendent des vêtements qui semblent complètement sortir de l'ordinaire, ils commencent à s'y rendre. Donc des jeunes qui sortent d'écoles d'art, d'écoles de coiffure également.
Mais ça coûte un peu cher, non, de venir s'habiller dans cette boutique. Tout le monde ne peut pas venir s'habiller là.
Alors tout le monde ne peut pas venir s'habiller là, mais on sait selon les témoignages que Vivienne donnait beaucoup de vêtements aux premiers jeunes punks qui venaient dans sa boutique. Donc elle leur donnait une sorte de kit d'arrivée, donc plusieurs vêtements pour non seulement pour faire la pub pour la boutique, mais vraiment pour créer un choc dans la rue, parce que c'était vraiment une des démarches de Vivienne Westwood. Et si on voulait s'y acheter un t-shirt coûtait à peu près le prix d'une semaine de salaire. Donc beaucoup de punks ont volé des vêtements également, donc c'était très très cher même pour l'époque. Vous avez aussi une clientèle beaucoup plus âgée, donc des vieux pervers, comme disaient les jeunes à l'époque, parce que c'était des personnes qui prenaient le magasin pour un sex shop et puis qui entraient pour chercher leurs affaires.
Donc, acheter du latex.
Acheter du latex, des costumes de bondage. Donc McLaren et Westwood concevaient des vêtements en latex sur mesure pour plusieurs députés britanniques et d'ailleurs qui sont passés par la boutique à une certaine époque. Donc la boutique faisait très très peur également. Donc on lit beaucoup de témoignages qui expliquent que les clients avaient très peur de rentrer dans cet espace à cause d'une des vendeuses, Jordan elle s'appelait, qui faisait très très peur aux clients et qui avait l'habitude de sortir avec un fouet pour impressionner les personnes qui osaient entrer dans cet espace.
Je rentre dans cet endroit qui est leur boutique à l'époque.
Jean-Charles de Castelbajac.
Et je vois à l'extérieur des t-shirts brodés avec des os de poulet. En fait, ils font sécher des os de poulet, je crois, d'un Kentucky Fried Chicken, le premier à Londres, qui est de l'autre côté de King's Road, et ils en font ces t-shirts, en fait. Et là, je découvre à Londres ce vent, ce souffle, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui est dans la rupture et qui est porteur d'une dimension transgressive, intellectuelle, de sécession. Hein, donc il y a toujours eu cette culture dans la créativité et de l'un et de l'autre, de disruptive, de l'esthétique est toujours, à un certain moment, le beau est toujours rompu, le beau est toujours cassé. Il y a toujours l'accident. On est plus troublé qu'ébahi par la beauté. Hein. Donc il y a déjà ça.
Ce que font Vivienne Westwood et Malcolm McLaren, c'est vraiment du jamais vu à l'époque.
Tim Heron.
Par exemple, le fait d'allier des vestes en cuir à des cheveux courts, ébouriffés et teints, le fait de porter des pantalons blondage avec des pulls en mohair qui existaient dans d'autres sous-cultures, il crée une discordance. En fait, c'est vraiment se faire rencontrer des vêtements, des accessoires qui n'avaient jamais été mélangés avant. Depuis 1970, Malcolm McLaren et Vivienne Westwood vendent à l'arrière d'une boutique qui appartenait à quelqu'un d'autre des radios, des disques, et puis ensuite ils commencent à vendre des vêtements de rocker dans les années 70. La boutique est renommée Let It Rock en 1971, et là le couple va lancer sa première collection de vêtements qui est dédiée au look Teddy Boy, qui est une des nombreuses sous-cultures qui existent alors à Londres. Donc des jeunes qui portent des vêtements inspirés de la mode édouardienne et écoutent des disques de rock'n'roll, notamment. Ce sont des longs manteaux que portait l'aristocratie édouardienne avant la Première Guerre mondiale, qui avaient été remises au goût du jour par des jeunes en fait, de classe populaire qui portaient ces vêtements destinés à des aristocrates. Mais c'était souvent des gangs, pratiquement des voyous en fait, qui se mettaient à écouter la musique rock'n'roll américaine mais également britannique.
Dans la boutique, c'était complètement effrayant, mais fascinant en même temps.
Stephen Jones.
Il y a un grand signe dehors qui est écrit sexe, et c'est en plastique rose, fuchsia, matelassé. C'était tout inspiré par les petits magazines, les journaux du sexe des années 50.
Je me souviens d'un lieu chaotique.
Je crois que le plancher était volontairement incliné.
Oui, était volontairement incliné. Il était recouvert de boue de temps à autre pour que les gens se tombent. Hein. Il y a des vêtements qui sont là, mais qui sont pas mis en exergue d'une manière commerciale. Et je me souviens avoir demandé à la personne qui était là, je sais même pas si c'était une vendeuse, qui crée. C'est là où j'entends la première fois le nom de Vivienne et de Malcolm.
C'était Let It Rock en 71, c'était Too Fast to Live en 72. À l'époque du punk, en fait, en 74, quelques années avant que le punk émerge, la boutique est renommée Sex. Puis elle s'appelle Seditionaries.
Ça veut dire quoi?
Seditionaries, en fait, ça veut dire dissident. Alors Malcolm McLaren l'aurait inventé pour lier l'idée de séduction, sedition, et de dissidence, de révolution. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'en fait, c'est là que Vivienne Westwood va pouvoir lancer pour la toute première fois une mode qui est vraiment cohérente. Donc elle va avoir la main libre, elle va avoir carte blanche pour concevoir ses vêtements comme elle le souhaite. Parce que Malcolm McLaren, à cette époque-là, va être très occupé par les Sex Pistols qu'il est en train de manager. Et donc Vivienne Westwood va pouvoir en fait avoir beaucoup de choses à dire quant à la confection de ses vêtements, quant à leur rendu final.
Il y a cette électricité dans Londres, et dans une Londres qui, malgré les années 60 et 70, reste encore très ancrée dans une dimension victorienne. Ces t-shirts sulfureux avec ces cow-boys face à face, en érection. Ces images inspirées de toute la culture gay, tout est possible en fait, et c'est ce qu'on ressent. Et il y a l'apparition de tout ce travail de latex. Il y a eu une affaire qui a été vraiment un tremblement, c'est qu'il faisait aussi des masques de latex noir avec des zips à la place de la bouche et des yeux, et que il y a eu pendant une période à Londres quelqu'un qui avait dû acheter un de ces masques qui est devenu un prédateur. Donc à se rapprocher du feu et du mal et du pouvoir de l'ombre en quelque sorte, hein, ce n'est pas kinesthétique.
J'ai une surprise pour vous, Tim Aaron. C'est une vidéo qui est extraite de la BBC en 1977. Et c'est deux journalistes qui, très bien mis, mais qui disent qu'ils vont aller voir la boutique de Vivienne Westwood et McLaren. Alors, ça se passe comme ça. Là, hop. Est-ce que vous pouvez appuyer sur la petite flèche ?
Alors déjà, on voit les deux journalistes dans les costumes complets qu'on portait encore dans les années 70. Incroyable. Donc la devanture de ces Dechenries, comme la boutique de Malcolm McLaren et Vivienne Westwood s'appelait depuis 1977. Vivienne elle-même dans son costume de tartan. On oublie à quel point les premiers punks portaient des vêtements de tartan, mais c'était vraiment quelque chose que Vivienne a réinsufflé dans la mode de l'époque. Avec les bretelles inspirées des tenues de bondage, des cultures BDSM. Et ses cheveux incroyables aussi, teints et puis ébouriffés en pique. Un look en décalage total avec la mode post-hippie, post-contre-culturelle qui était encore dominante au milieu des années 70. Sid Vicious, tout jeune. Et la chemise est destroyée, on voit l'icône de Karl Marx sur la chemise. Le but est de se transformer, de se changer, dit Vivienne Westwood. Et c'est un discours qu'elle a jusqu'à la fin de ses jours, vraiment. L'idée que le fait de s'habiller, de se voilà, qu'on le voit ici, hein, de se transformer. Alors le punk, très rapidement, il choque au tout début, mais on s'en moque très rapidement. On en rit rapidement. Et puis des magazines vont apparaître dès les premiers mois qui disent comment s'habiller en punk, comment habiller son enfant en punk, et ainsi de suite. Donc... On met beaucoup l'accent sur le côté choc du punk, mais on oublie aussi à quel point il devient vite un paysage connu et reconnu dans les médias anglophones. Voilà, c'est la petite mamie qui propose aux journalistes d'ajouter une chaîne pour compléter son look. Et l'humour aussi, incroyable. Un bel aperçu de la boutique Sedationaries de Vivienne Westwood, dont il reste très peu d'images au final. Mais c'est une boutique qui est toute petite, donc c'est vraiment pas un grand espace. On ne peut pas voir à l'intérieur de l'extérieur, donc les vitres sont...
opaques.
Les vitres sont opaques, merci. Et à l'intérieur, vous avez des affiches sur les murs qui représentent le bombardement de Dresde en Allemagne. Parce que Vivienne Westwood voulait que l'on montre des choses, elle disait les choses laides, elle voulait montrer les choses qui étaient oubliées par l'histoire britannique. Et une chose dont on ne parle pas très souvent dans le roman national britannique, c'est le fait que la ville de Dresde a été bombardée par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il en restait très peu. Vous avez également dans cette même boutique des vêtements avec des brassards noirs qui portent une croix gammée ou un A cerclé symbolisant l'anarchisme. Donc il y a vraiment un jeu avec les discours politiques de l'époque. Les années 70 sont une période très clivée en termes de politique, avec la montée de l'extrême droite, mais également une extrême gauche très forte également. Donc vous avez vraiment un jeu avec les slogans, avec les images, avec les icônes de l'époque.
En 1976, l'élément clé de la collection Seditionaries fut une vieille chemise à rayures que j'avais teinte sur la gazinière et où j'avais écrit avec des pochoirs « Seuls les anarchistes sont mignons ».
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça marche? C'est bizarre. C'est quoi l'entrée?
Alors l'entrée, c'est simple, c'est une chemise, tout ça, tout ce qui est plus bête. On a simplement l'ouverture enfilée par la tête. Et c'est une chemise en cette espèce de sergé de coton beige rosé. Et il y a une manche rouge, la manche gauche.
Alexandre Sanson.
Et surtout, sa particularité, c'est qu'elle est sanglée. Et elle a ces multiples sangs qui la parcourent, qui rappellent parfois aussi les uniformes des parachutistes durant la Seconde Guerre mondiale, mais qui est évidemment une évocation aussi du bondage. Et donc on est en 1974, et on a d'ailleurs la double griffe sur l'objet.
Ah oui, Malcolm McLaren, Vivienne Westwood, Seditionaries Exclusive Collection. Et en dessous, Sex Original, 430 Kings Road, Chelsea. Et il y a même un numéro de téléphone.
Ce qui est en tout cas très amusant, c'est surtout l'effigie, le patch de Karl Marx appliqué sur la poitrine côté droit et qui a été récupéré en fait dans justement des surplus dans le quartier chinois de Londres. Et elle a acheté comme ça tout un lot et les a appliqués en patch sur sa chemise. Alors tout écrit et signé l'eau. Je ne pense pas qu'il y ait de récupération à part le patch qui est récupéré. C'est la seule chose qui doit être récupérée là-dedans. Même si vous voulez, le vieillissement que vous avez, les taches de rouille, c'est un vieillissement artificiel. C'est un vieillissement qui a été fait après. C'est le principe du punk. C'est comme si un vêtement qui avait vécu. On le voit bien d'ailleurs quand on a des coutures qui sont ouvertes et qu'on regarde l'intérieur des coutures, on voit qu'en fait l'intérieur est tout blanc, tout clair, comme si le tissu était neuf. Ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment quelque chose de l'ordre presque du costume, parce que toutes ces sangles, elles ont toutes des petites boucles noires, mais ces boucles, c'est du caoutchouc. C'est pas du métal, en fait, comme on pourrait le trouver dans les vrais surplus de l'armée. Voilà, donc c'est ce vêtement de contestation, quand même Karl Marx, qui est bien visible, et on verra beaucoup les Sex Pistols, notamment Johnny Rotten, porter ce type de tenue, mais en noir, avec le pantalon assorti sanglé noir.
Pourquoi il y a deux étiquettes?
C'était des protos qui avaient été conservés, c'est-à-dire entre les deux changements de boutique. Donc elle change multiples fois le nom de ses boutiques. Donc c'est pour ça qu'on a la double griffe qui a été appliquée après en disant bon, c'est Sex, on l'a gardé, mais on est devenu Seditionaries entre temps.
En 1971, nous avons ouvert une boutique à Londres, au 430 King's Road, sous le nom de Let It Rock. Je dessinais et je fabriquais avec les moyens du bord des vêtements copiés des 50s. En 73, le nom du magasin devient Too Fast to Live, Too Young to Die. Cette fois, c'est ambiance rocker, avec chaîne, clous et cuir noir. L'année suivante, en 74, le mot sexe s'affiche sur la devanture du magasin. Mais Malcolm veut encore changer de nom, et en 76, nous nous appelons Seditionaries, puis ce sera World's End, notre dernier nom, celui que continue de porter la boutique de King's Road, encore aujourd'hui.
On ne peut pas s'attacher à la marque. On ne peut pas s'attacher à quoi que ce soit. Tout est éphémère, tout brûle les mains, tout est là pour déranger tout simplement. Et alors, là on va revenir un peu en arrière. Hein. Un soir dans un dîner... Viviane était là et j'ai dit, mais d'où vient ce nom « Too fast to live, too young to die » Parce que cette phrase, elle est toujours extrêmement forte. Et alors, il semblerait que c'était dans le East End, hein, et il y avait un petit bar, là, il y avait un petit bar de Teddy Boy. Et il y avait un jukebox dans ce bar. Les gars venaient en moto avec leur Norton Commando, leur BSA, leur Triumph. Et lorsqu'on mettait une pièce dans le jukebox, tout le monde bougeait, mettait des pounds sur le jukebox. Et l'un d'eux partait sur sa moto à fond et faisait le tour du pâté de maison, qui était gigantesque, et devait revenir avant que la chanson ne soit terminée. Summertime Blues, c'est 2 minutes 48, par exemple. La plupart du temps, le gars n'arrivait pas parce qu'il se cassait la gueule. il y avait au bout de la rue une espèce de boutique de boulanger qui recevait régulièrement des motos dans sa vitrine. Et c'était too fast to live, too young to die. You can't use a car 'cause you didn't work or
live. C'est du tricot de laine mohair, légèrement feutré, qui a été porté par Johnny Rotten, donc le leader des Sex Pistols.
Alexandre Sanson.
Et qui est typique fait des pulls tricotés par Westwood au milieu des années 70, qui est très emblématique et qui a beaucoup surtout d'influence sur le reste de la mode, parce que ces types de pulls en mohair, avec ses couleurs très vives, il y a du noir et du rouge très vif, mais il y a du bleu layette, il y a du bleu plus foncé, il y a du rose plus clair. Il va avoir une immense influence, notamment sur les créateurs comme Martin Margiela, qui va faire des hommages au pull punk. Il va demander à sa maman de tricoter ses pulls avec des manches à balai. Et donc voilà, ça va avoir une grande fortune critique. Et ce qu'il faudrait rajouter, c'est qu'on a ces épingles à nourrice pour décor, et qui sont épinglé sur le milieu devant du pull en forme de croix, légèrement rouillée. On n'y touchera pas, on les laissera là où elles sont. On imagine que c'est Johnny Rotten qui s'en est servi comme un ornement, peut-être.
Voilà, c'est ça, c'est de voir cette nouvelle mode qui semble sortir de nulle part. C'est une mode qui est vraiment ovni, une tenue qui ressemble à rien à ce qu'on a pu voir jusque-là, et puis qui commence à inonder les rues de Londres, et puis bien au-delà par la suite. Pour le punk, s'habiller, c'est tout un rituel. Même avant d'être dans la rue, même avant d'être dans le salon pour choquer les parents, le fait de se préparer pour sortir, c'est pour beaucoup une forme d'empowerment, une forme d'expression. Les vêtements punk qui émergent dans les années 70, selon le sociologue ou le sémiologue plutôt, Dick Abdige, ce sont des vêtements qui mettent en scène la crise ou les multiples crises qui traversent la société britannique dans les années 70. Donc vous avez des crises politiques, vous avez un parti travailliste qui est en déclin, avec des dissensions internes, vous avez l'assaut du thatchérisme qui se prépare également, vous avez des crises économiques, vous avez des chocs pétroliers, des crises géopolitiques, vous avez un conflit en Irlande du Nord, vous avez un fort taux de chômage. Donc, dans les années 70, on a vraiment le sentiment de vivre un déclin, en fait. Donc, c'est un peu la gueule de bois après l'orgie des années 60, en fait. Et c'est une époque où on a beaucoup de mal à croire, en fait, en avenir radieux. Vous avez également la montée de l'extrême droite, cette période-là. Donc, voilà, vous avez une série de crises politiques, de crises sociales. Et le terme anarchie, par exemple, parce que des études ont été faites sur les occurrences de ce terme dans la presse à l'époque, le terme anarchie apparaît partout dans la presse, dans les discours politiques. Puis Vivienne Westwood, à travers ses vêtements, a vraiment su se saisir de ce discours de la crise. En fait, voilà, c'est ça, c'est cette mise en corps de cette oppression, de ces restrictions, de ce poids des années 70. C'est vraiment des vêtements qui sont soit portés trop petits ou portés trop grands, ou qui sont déchirés ou qui sont asymétriques, qui sont un corps qui n'est pas libre dans des vêtements amples et flottants comme les hippies justement, mais qui sont restreints, contraints par des sangles, par des boucles, par des chaînes. Donc c'est vraiment là que le punk va surgir, va se saisir de ce sentiment et le retourner comme un miroir face à la population britannique.
Tiens, il y a un petit peu de silence chez Angelina, on va en profiter, Sylvie Grimbach, parce que c'est, même si c'est un petit peu feutré, il y a de la moquette sous nos pieds, il y a des boiseries dorées. Est-ce que c'était comme ça déjà en 1983 ?
Oui, c'était exactement comme ça.
Je dis 1983 parce que c'est là que tout commence pour Vivienne Westwood à Paris.
Oui, c'est la première fois qu'elle défile à Paris. Comme on était en dehors du calendrier officiel, on a pu venir défiler ici à l'heure du petit déjeuner. On n'a pas loué l'endroit, mais on a servi du chocolat à toutes les journalistes qui étaient présentes.
Vous, Sylvie Grimbach, comment est-ce que vous faites la connaissance de Vivienne Westwood ?
Vivienne avait une certaine reconnaissance de un certain public, en tous les cas, ceux qui avaient l'habitude d'aller à Londres, et elle habillait des groupes de musique entre le rock et le punk. On s'est rencontrés au Palace parce que moi, je m'occupais de la communication et on faisait beaucoup de concerts. Donc, pendant un concert dont McLaren était le tourneur, enfin le manager, Vivienne Westwood, qui commençait à faire ses propres vêtements, un peu se détacher de Malcolm, on a commencé à parler après le concert. Et quand elle a décidé, quelques mois après, de défiler à Paris, Vivienne était une des personnes que je représentais et que j'ai représenté pendant 15 ans.
Alors, si on revient au défilé à Paris...
Après le premier défilé chez Angelina, la presse qui a eu autour de ce défilé, elle a été acceptée dans le calendrier des couturiers et des créateurs de mode. C'était une époque où le calendrier devenait un peu plus international. Et du coup, Vivienne Westwood a eu la possibilité, puisqu'elle avait fait ses preuves, de pouvoir être acceptée dans ce calendrier. Si vous défilez à Paris, vous devenez international et vous arrivez mieux à vendre, vous êtes reconnu à l'international. C'est vrai que les gens se battaient pour aller à ces défilés parce que c'était quand même la reine des créatrices, en tous les cas anglaises, et qui était reconnue comme telle. Et c'est vrai que si elle est venue défiler à Paris, c'était pour avoir cette reconnaissance aussi.
Elle est anglaise, Westwood, et ça se voit. L'hiver à la sauce anglaise, ça donne ça. Côté pile, c'est élégant. Côté face, c'est provocant. Sous les ors du très chic hôtel Crillon, la plus excentrique des créatrices britanniques, kitsch et savoureux, comme un bonbon anglais.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va s'institutionnaliser dans les années 80. Donc elle va justement, tout en restant contestataire dans sa production, elle va s'ancrer dans un système, qu'un système parisien des défilés, en s'éloignant aussi du punk. C'est aussi intéressant, elle va apporter d'autres... peut-être aussi avec sa rupture avec Malcolm McLaren, il faut qu'elle passe à autre chose. Et donc, elle a marqué son temps avec cette pratique-là. Elle va évoluer vers d'autres pratiques qu'on peut voir d'ailleurs juste après. Donc, on est ici sur un trench unisexe qui est dans une toile de laine écrue et qui a des petits lancers, on appelle ça comme ça, des petits lancers, donc comme des petits poils noirs et qui pourraient rappeler quand même l'hermine d'un vêtement aristocratique. Et donc, on est ici en 1984, on est pour la collection, je crois, de l'été 1984. Avec ce trench qui épouse vraiment cette espèce d'esthétique pirate que va développer Westwood, donc son basculement vers le punk au pirate, d'autres contestataires, mais qui apporte une note plus historique, plus historicisante, hein, on dit dans les milieux des musées, à sa contestation. C'est drôle parce que le trench coat, c'est vraiment une typologie de vêtements qui est née en Angleterre presque, enfin durant la Première Guerre mondiale, mais qui est affiliée, assimilée à l'Angleterre, et ici elle le disrupte, on peut dire, elle le transforme, elle y amène aussi donc, ce côté contestataire de forme, par la forme, mais également par les références, et donc on a ces références déjà peut-être aussi monarchiques avec la matière, mais également avec le pirate, et donc ce qui est amusant, c'est le basculement vers l'histoire, qui va être très important, l'histoire du XVIIe siècle, qui va être vraiment majeure dans la carrière de Vivienne Westwood.
Cinderella, wake up! Wake up! You have to go to the ball! But I don't even have a dress.
Oh no!
Close your eyes, Cinderella. We have a surprise for you. Ta-da!
I can't believe it. It looks amazing.
Cinderella put on her new dress and and did her hair, and finally went downstairs.
L'inspiration de Viviane, selon moi, elle est plus du côté de la cour, de la légende, de la mémoire, de la littérature, de la littérature. Parce qu'enfin, c'est ça, Viviane. C'était une femme très cultivée, qui dévorait les livres.
Et qui est habitée par les histoires, parce qu'elle racontait aussi qu'elle aimait bien que sa mère lui lisait les contes de Grimm quand elle était enfant, et qu'elle allait chercher du houx dans la forêt de Sherwood avec son père. Enfin, tout ça, c'est un imaginaire très, très anglais.
Très, très, très anglais et très, très ancré dans la légende. Hein. Il y a cette idée de légende qu'on retrouvera toujours dans l'essence même du style Vivienne Westwood. Que ça soit le globe, qui est symbole de la royauté, que ça soit la manière dont elle détournera les codes régaliens, hein, l'ordre de la jarretière, la devise, ni soi qui mal y pense. Donc il y avait toujours cette idée derrière les choses.
Pushing the idea of elegance.
Je cherche toujours les limites de l'élégance.
I have just started designing my next collection. And
je viens de commencer ma prochaine collection. Et la seule chose dont j'étais absolument certaine, c'était que tout devait partir de ce socle très anglais que j'ai déjà exploré. Mais cette fois, je voulais que cela ait l'air presque né du hasard. Tout devait être chatoyant, avec beaucoup de goût, à peine montré. Je voulais cette élégance qui se fabrique parfois par hasard quand on vit à la campagne.
Vivienne Westwood se définissait toujours comme anglaise plutôt que britannique. Donc elle avait un côté très très patriote, tout en étant antinationaliste, curieusement. Donc c'est un de ses nombreux paradoxes. Mais jusqu'au bout de sa vie, elle a été très anglaise, en fait. Elle le réclamait elle-même, et puis elle se nourrissait, elle vivait de cette nostalgie d'une Angleterre fantasmée, inspirée en partie de sa jeunesse qu'elle a idéalisée jusqu'à la fin de ses jours. Son côté anglais est vraiment central pour cerner le personnage. Il y a beaucoup de pièces qu'elle a créées pendant sa longue carrière sont des vêtements qui ont été inspirés de costumes britanniques des siècles précédents, notamment donc des vêtements de chasse par exemple. Oui, il y a vraiment un côté anglais indéniable qu'elle revendiquait elle-même, qui se manifeste notamment par sa fascination pour le personnage de la reine, qui est un mélange de révérence et d'irrévérence, en fait, qui est un mélange d'iconoclasme et puis de respect vraiment pour cette institution. Chose qu'elle savait très bien faire.
Chez Vivienne Westwood aussi, on porte la culotte. Mais voilà, madame s'est trompée d'époque. Ici, c'est plutôt l'histoire du 18e revisité le temps d'un défilé à l'anglaise. Depuis toujours, Miss Westwood s'amuse à plagier les grands portraitistes anglais. Voici donc sa galerie de belles ladies Chatterley dans leurs robes de bal, de contes de fées, comme un livre d'images un peu jauni qu'on feuillette avec nostalgie. Rideau sur la mariée qui s'avance, prudemment masqué, le petit théâtre de la mode espère seulement vous avoir joliment distrait.
Fin des années 80, elle commença à regarder beaucoup vers le 18e français, ce qui n'était pas forcément quelque chose sur lequel on l'attendait. Et elle va justement faire, à partir notamment des collections de la National Portrait Gallery, de Londres, des recherches très poussées sur les motifs et également sur les structures des vêtements. Donc c'est très amusant, c'est que le 17e anglais et le 18e français vont être deux moments de mode qui vont la suivre tout au long de sa carrière. C'est une francophile, elle parle français couramment, elle a cette culture française, cette admiration pour la culture française, elle a également beaucoup d'amour pour la propre culture de son propre pays, et ce qui est évident, c'est qu'elle va fusionner les deux, avec ce côté toujours de contestation, vu qu'elle regarde dans le 18e le côté libertin, le côté aussi peut-être du marquis de Sade, cette espèce d'imagerie justement libertine au XVIIIe siècle, avec cette sur-sophistication du vêtement, c'est des choses justement sur la liberté de penser des Français, d'une certaine classe aristocratique française au XVIIIe siècle, qui lui plaît énormément. Mais elle regarde au-delà des décors, elle a vraiment aussi une posture presque.
Vous avez des choses très, justement, très excentriques en référence au XVIIIe français ?
Oui, alors on en a quelques-unes. On a déjà ce petit caleçon, une sorte de legging, couleur beige, pour essayer de contre-typer les couleurs d'une peau claire, donc comme si la femme était nue. Et en lieu et place du sexe, il y a une broderie qui rappelle une feuille de vigne, mais elle est très stylisée, parce que ce sont des plaques de miroir brodées au fil vert. Et c'était porté avec une veste et une chemise, et une paire de talons à plateforme, et un petit chapeau. Donc on avait vraiment une espèce de tenue très anglaise, avec justement ce petit chapeau de chasse. Et donc ça, à nouveau, c'est aussi un clin d'œil à l'histoire de l'art, évidemment, avec toutes les statues, donc il a fallu couvrir et rendre plus pudique, bien sûr aussi à la peinture, mais surtout le thème de la collection qui était Voyage à Cythère, voilà, sur l'île de Cythère, qui est un tableau de Watteau.
Il y aura toujours dans le cœur de Viviane, comme si elle avait vécu cette époque. Elle avait cette fascination pour les incroyables et les merveilleuses, ces femmes qui, en temps de terreur, mettaient autour du cou un ruban rouge pour montrer le suivi à découper de la guillotine. Elle a toujours eu cette fascination.
La collection Mini Crini, printemps-été 1985, a été présentée dans la cour du Louvre à Paris. La mode était aux épaules exagérées, alors j'ai pris une autre direction. Je voulais une silhouette féminine et je me suis inspirée de la poupée du ballet Petrouchka, mixée avec une photo de la reine Elisabeth, quand elle était petite fille, avec son manteau croisé, comme en portent les enfants des écoles privées en Angleterre. J'ai stylisé des chaussures à plateforme, avec des semelles en bois, qui faisaient penser à des sabots, mais quand vous marchiez vite, elles vous faisaient vous balancer comme un chameau. J'avais écrit une chanson, « Swing the mini crini, ring the bell ». Et au défilé, c'est Sarah Stockbridge du groupe Choice qui l'a chanté.
Chez Viviane, le corps, la femme, hein, ne se dissimule pas. Elle est presque exhibitionniste, mais pour mettre mal à l'aise, pour devenir une arme impactante. On le voit plusieurs fois dans sa vie. Lorsqu'elle sera faite dame, elle soulève sa jupe. Lorsqu'elle affirme des collants ornementaux particuliers, la manière dont elle construit ses corsets, la manière aussi dont elle met ensemble des matériaux qui n'ont absolument rien à voir que dans son inconscient et dans ses pages de romans dévorés.
Quand les Anglais défilent à Paris, c'est toujours rock'n'roll, à l'image de Miss Westwood. Le podium est transformé en chantier, les filles s'amusent devant les objectifs, les accessoires sont plutôt originaux. Collier de clés, ceinture pipeau et porte-clés rigolos, les Anglais sont si joueurs.
Alors Vivienne Westwood parle beaucoup de joie de vivre, même en anglais, joie de vivre, dans les entretiens. Et puis j'ai une citation d'elle quelque part, où elle parle de ce plaisir de s'habiller, de cette joie, de la conception de vêtements, mais au fait de s'habiller. Vivienne a dit « Je dis toujours que le meilleur accessoire de mode est la confiance en soi. » La meilleure accessoire de mode est la confiance en soi.
Ah ben de toute façon, Vivienne Westwood, il faut assumer. Vous pouvez pas, c'est pas fait pour les garçons et les filles timides, Westwood. C'est quelque chose, c'est aussi, quand vous portez un vêtement de Westwood, vous assumez aussi une position, une attitude vis-à-vis des autres, une attitude sociale, de contestation aussi, une certaine liberté de penser. Voilà. C'est ça aussi la force de ce qu'on va appeler le mouvement des créateurs, dont elle fait complètement partie, des créateurs et des créatrices. C'est qu'ils ont justement leur univers et vous correspondez à cet univers ou vous le quittez.
I promote the idea
of
Je défends l'idée d'une, je ne dirais pas d'une sexualité étrange, mais je joue avec l'idée de la sexualité parce que je n'aime pas l'orthodoxie, quelle que soit sa forme.
Some people think little girls should be seen and not heard, but I think, oh bondage, up yours, 1, 2, 3, 4.
Après, elle a fait une collection sexe, probablement d'ailleurs celle de la feuille de vigne. Et c'est là où elle a fait des colliers où il y avait écrit sexe d'ailleurs. Elle avait d'ailleurs des petits boutons qui étaient des petites bites. Bon, enfin, elle a été assez portée aussi sur... Elle s'est amusée, je pense, beaucoup dans sa vie.
Ça, vous avez porté des choses comme ça, vous, Sylvie Grimbach ?
Oui, madame.
Alors, pour faire quoi ? Pour aller à l'opéra ? Pour aller manger chez des amis ?
Pour aller au palace ? Bah oui.
Il y a une photo, là, sur le mur, alors, juste derrière nous.
De 81. C'est une photo faite par Olivero Toscani. Et Viviane est arrivée avec cette casquette improbable, rouge, avec une main qui sort et un marteau.
Et ce chapeau qu'elle a sur la tête, ça vient de ses collections ?
Non, ça vient, je pense que c'est un accessoire qu'elle a peut-être trouvé à l'aéroport, puisqu'on l'avait shooté à Milan. Ça la représentait bien, elle était en 81, elle était dans une transformation, il y avait des séquelles punk, une dimension fractale punk et passionnée d'histoire du vêtement. Donc, on assistait vraiment à la naissance du style Westwood.
Puis 81, c'est le moment où elle va commencer progressivement à se séparer de Malcolm McLaren, voilà, et de prendre, elle, son envol pour faire ses défilés toute seule, etc.
Absolument.
Donc
c'est
presque une photo d'un moment de
d'émancipation. Ouais, très fort. Elle s'affirme, elle est là, elle se met, elle se couronne. C'est vraiment la photo d'une femme forte en construction.
Dans les années 80, j'ai étudié les coupes des vêtements du passé. Je les ai copiées comme un étudiant des beaux-arts passerait par la copie des grands maîtres. Je suis allée à New York, j'ai rencontré Kessaring, il m'a offert une de ses œuvres et c'est de là qu'est née ma collection sorcière. Il y avait du hip-hop, du breakdance, des cotons matelassés, des jupes tubes et des baskets blanches.
Moi, je faisais les dessins et la recherche pour les nouvelles collections de chaussures et de sacs.
Zoé Lee.
Il y avait toujours un peu un base d'un collection archive et quelque chose avec de l'art ou une histoire ou un caractère qui est inventé, qu'on doit penser comment ça va être d'être cette personne et puis faire des produits autour de ça, de cette histoire. Je me rappelle, on faisait des trucs pour accrocher au sac. On faisait des petits nounours. C'était un jouet en fait. Et c'était pour une fille qui n'a pas de maison, qui habite sur la rue, et puis elle a toutes ses affaires dans un sac, même un truc qui est en référence de son enfance où elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle peut se transformer dans 2 secondes dans une femme très sophistiquée. Mais elle tient tout sur elle, alors on crée des objets autour d'elle, qu'elle garde dans son sac ou sur son sac. Et elle avait des nez très hautes, talons, mais elle pouvait faire n'importe quoi dans ses talons parce qu'elle était professionnelle talons. Ouais, ça, c'était un des caractères qu'on avait souvent. C'est toujours une femme qui est plutôt indépendante, qui ne suit pas les modes ou qui cherche à faire plaisir au monde. Une femme très forte.
Et moi, j'ai été approché par l'université de Vienne, la Hochschule Angewandte für Kunst, pour devenir gastprofesseur. Et lorsque j'ai voulu quitter l'université, on m'a dit « Choisissez votre successeur ». J'ai appelé Viviane et elle a dit oui.
En 1988, j'ai pris un poste de professeur de mode à l'Académie des arts appliqués de Vienne. Andreas Kronthaler, mon futur mari, était un étudiant complètement au-dessus du lot. Je n'avais jamais rien vu de pareil. À la fin de ses études, il est venu voir ma collection, avec toute une bande d'anciens étudiants. Et il n'est jamais reparti. Aujourd'hui, les collections Vivienne Westwood, c'est lui.
C'était un immeuble, peut-être, je pense, des années 50, alors c'était pas très beau.
Zoélie.
Il y avait les bosses, et puis il y avait nous, qui étaient les gens qui étaient plus jeunes. Tout le monde s'entendait très bien, en fait. C'est un peu famille, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler là. Alors, dans le studio, c'était un vrai mélange européen et anglais, même si c'était vraiment une marque très, très anglaise. On buvait beaucoup de thé. Ça, ouais, c'est sûr. On était deux à faire tous les chaussures et tous les sacs. Bon, je partageais un ordinateur avec l'autre fille qui travaillait avec moi. C'était pas luxe, luxe, luxe. C'était juste ce qu'on avait besoin de faire, ce qu'on avait besoin de faire. On allait direct, soit à Creative Director, Andreas ou Vivienne. On parlait direct avec eux. Et on n'avait pas besoin d'ordinateur. On faisait tous les dessins à main. Et puis, on envoyait par fax beaucoup des dessins. Je me rappelle, je pense qu'elle avait cassé son hairdryer, le sèche-cheveux. Et ma copine qui travaillait, qui faisait l'imprimage, elle s'entendait très bien avec Vivienne. Alors, elle a... quelquefois, Vivienne lui demandait de lui aider à faire des choses et elle lui a demandé d'aider de réparer cette machine. Et c'était hyper difficile parce que cette machine, c'était de 1989 ou quelque chose et il n'y avait pas les... Mais elle insistait que ça devait être réparé, comme ça a duré si longtemps. Si c'était qu'un petit réparation, ça va durer encore une vingtaine d'années. Et ouais, peut-être c'est... Moi, c'est bien de penser comme ça. Les gens pensent pas comme ça assez du tout.
Et c'était quelqu'un qui ne regardait pas la télé, qui ne consultait pas ses mails ou qui évitait les écrans, qui évitait l'ordinateur. Il écoutait de la musique classique et c'était à peu près tout. Donc tout ce qui était punk, tout ce qui était rock, c'était pas du tout son dada. Mais c'est quelqu'un qui a vécu d'une certaine manière, presque un peu comme une ermite, dans une certaine mesure.
Un doux air de nanny, mais gaffe à cette lady. My God! Copine des Sex Pistols, marraine de la mode punk. Aujourd'hui, Crazy Vivienne s'est assagie. Faut vendre, pardi, avec toujours le goût de la parodie. Des belles du temps jadis, relookées pas tristes. Son truc à elle, l'excentrique, le costume historique. Marvelous, wonderful, les vannes de Vivienne ont adoré.
Jusqu'à la fin de sa vie, elle garde cet esprit punk.
Pour moi, oui. Le punk est très difficile à définir. Si on veut le placer vraiment culturellement à une époque précise, non, elle passe très vite à autre chose. Par contre, si on parle d'esprit punk en tant qu'esprit contestataire, iconoclaste, oui, jusqu'au bout, elle restera punk, jusqu'à la fin de ses jours. Il y a quelques années, elle a écrit un manifeste pour l'écologie. Elle continuait à manifester régulièrement. Donc, en tout cas, par son militantisme, par son côté anti-establishment, par son côté iconoclaste, elle est restée très clairement punk. Pour moi, en tout cas, oui.
Bouleverser les codes. Avec elle, la mode est politique. Engagée pour l'écologie.
Je parle tout le temps du changement climatique et de ces futurs milliards de sans-abri. Parce que c'est ce qui va arriver dans quelques générations.
Elle s'oppose au gaz de schiste et le fait savoir au Premier ministre en arrivant, en char devant chez lui. Révoltée, même à la fin de sa vie. En 2020, elle s'enferme dans une cage pour défendre Julian Assange et la liberté d'expression.
Julian Assange. I am the canary in the cage. He has been trapped.
Elle se définit elle-même à la fois comme une couturière, comme une artiste et comme une militante. Et ça, c'est une verve, c'est une passion qu'elle a gardée jusqu'à la fin de ses jours.
We have no
Nous n'avons pas d'avenir. Nous avons un système financier basé sur la guerre perpétuelle, la guerre commerciale et la concurrence. C'est la cause du changement climatique. Les guerres se font pour la terre et la main-d'œuvre bon marché. La véritable économie est basée sur la valeur de la terre. La terre n'appartient à personne. Nous sommes les gardiens de la terre.
Je pense qu'il y a à la fois en elle une dame et à la fois une activiste rebelle. Au-delà de sa notoriété, elle a pris conscience de son passé punk, de la manière dont on pouvait interpeller ou dont on pouvait déstabiliser des institutions. Et sa notoriété mise en phase avec cette connaissance de l'activisme en quelque sorte, hein, donc c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, et c'est quelqu'un qui est très fidèle à ses causes. Il n'y a jamais chez Vivienne de causes passagères, que ça soit pour Assange, où elle ira jusqu'au bout de s'engager. Elle se met en scène dans les photos de Jürgen Teller d'une manière ultra provocante pour les institutions. Elle met en scène son amour pour Andreas. Elle se met en scène quand on parle d'écologie. Et ce qui était très émouvant, par exemple, dans le discours de son fils, de Joe, c'est qu'il a lu la liste de recommandations de choses qu'il avait encore à faire.
Ça, c'était la liste qui a été lue au moment de ses obsèques ou de l'hommage qui lui a été rendu après.
C'est cela. Et c'était une liste interminable de causes à défendre, de peuples à défendre. Mais encore aujourd'hui, je pense qu'elle est très présente. Et il y avait cette idée de former une communauté. Et c'est une forme d'immortalité, cette communauté, puisqu'on est là autour de cette table à parler d'elle.
I am an anarchist, I am an antichrist. Don't know what I want, but I know how to get it. I want to.
Merci à Sylvie Grimbach et Zoé Lee, Jean-Charles de Castelbajac, Stephen Jones, Tim Aaron et Alexandre Sanson pour leur participation. Anarchy. Prise de son, Éric Audra, Christophe Michou, Noé Chaban, Grégory Voilon. Avec un coup de pouce sympathique d'Éric Boissé et de Pierre Lemaire. Mixage, Éric Villenfin, Archivina, Aude Vassan. Merci à Virginie Gresset et Loïc Delacour de la documentation sonore et à Sophie Cheblin de la documentation d'actualité de Radio France. Attachée de production Sylvia Favre, coordination Christine Bernard. Vivienne Westwood, 1941-2022, par Véronique Samouilov et Emmanuel Paul. How many ways to get what you want? I use the best, I use the rest, I use the enemy, I use anarchy, cause I wanna be anarchy. Is this the UDA? Is this the IRA? I thought it was the UK or just.